avec plaisir que je me retrouve là devant vous. Ça n'a pas été facile toutes ces dernières semaines, il y a eu du combat. Mais Dieu nous donne de remporter des victoires. Et le thème que je vais développer aujourd'hui, à le dire, Michel, dans ses exhortations dès les premiers instants du culte, l'a annoncé. Je remercie Dieu pour l'Esprit, pour son Esprit qui inspire le cœur de ses serviteurs. Et il y a plusieurs choses qui ont été dites déjà, qui seront là. J'avais demandé ce matin dans ma prière, Dieu, qu'il y ait divers points qui me soient précisés pour être conforté dans cette annonce de l'Évangile. Ce n'est jamais une chose facile, mais il y a des choses que Dieu désire faire entendre, et ce matin, il veut le faire par ma bouche. Alors, je m'en remets à sa grâce et je vous prie de penser à moi tout le temps de ce culte, de prier pour moi afin que je puisse délivrer ce message. Nous avons trois lectures à faire. La première se trouve dans Luc chapitre 19, versets 1 à 6. Alors, Luc 19, versets 1 à 6. « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Deuxième lecture dans Luc, chapitre 23, versets 36 à 43. Les soldats se moquaient de Jésus, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et puis la troisième lecture, Hébreux 4, 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après qu'il ait dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a un mot, il y a une notion qui ressort de ces trois lectures, qui me dira quel est ce mot, quelle est cette notion. Aujourd'hui, hein, c'est simple. Hein. Vous savez, je suis très simple. Hein. Il y a le mot aujourd'hui, la notion du temps, la notion de temps. Et s'il avait fallu donner un titre, mais je l'ai donné à cette méditation, je donnerais l'aujourd'hui de Dieu, ou encore Dieu aujourd'hui. J'ai une tendance de remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. Cela s'appelle procrastiner. D'accord ? Procrastiner, c'est l'action de remettre à demain ce qui peut être fait dans l'heure. Cela a donné d'ailleurs le terme, qui est une expression littéraire ancienne, selon le petit Robert, le terme de procrastination. Alors, je ne suis pas le spécialiste, mais j'ai cette tendance. C'est une faille, je la confesse, c'est une faiblesse. L'on peut rencontrer d'ailleurs cette faille, cette faiblesse, chez les personnes sujettes à la dépression. Mais je dis tout de suite, Jésus guérit de la dépression. Et vous dites amen, c'est bien. Il est une personne qui procrastine aussi. Une personne qui procrastine aussi. Il est dit du diable, ayant tenté le Seigneur Jésus dans le désert, Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et il nous est rapporté qu'après l'avoir tenté de plusieurs manières, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire qu'il espère toujours qu'il y aura un moment favorable pour tenter Jésus. Ça s'appelle procrastiner. Il dit « je remets à demain, je ne peux pas, là, je remets à demain, mais je vais revenir ». Il revient parfois dans nos vies pour essayer de nous toucher, mais je dis tout de suite, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Elle est complète, elle est entière face à l'adversaire de nos âmes. Et nous ne devons pas craindre de le dénoncer comme étant un menteur, un usurpateur. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Ce qui revient à dire, aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. Aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. Pierre ne s'y trompe pas d'ailleurs. En s'adressant à Jésus, il lui dit, à quel autre irions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. La parole de Dieu est définie comme étant la semence de vie qui n'est pas une semence de nature éphémère. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et éternelle de Dieu. Et vous savez que j'aime beaucoup la version de M. Quinn qui dit « régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu ». C'est la parole dont nous avons besoin aujourd'hui, dont tu as besoin aujourd'hui. J'aime ce second qualificatif qui désigne cette parole comme étant permanente. Elle est là pour nous instruire. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour nous instruire, pour t'instruire. Et vous ne dites pas amen ? Mais c'est notre privilège que de pouvoir librement écouter la parole de Dieu. Mes amis, si votre foi est fondée sur ce postulat, sur cette déclaration que la parole de Dieu est vivante et permanente, éternelle, je vous dis de sa part, vous irez loin avec Dieu, vous irez jusque dans l'éternité. Amen. Jésus vous y introduira, vous serez dans la présence du Père pour toujours. Ce qui est éphémère fera place à ce qui est permanent. Plus de notion de temps, de jours, de mois, d'années, la notion de temps n'aura plus lieu d'être car vous serez pour toujours dans l'éternel présent de Dieu, ce qui ne saurait d'ailleurs tarder. Jésus revient, l'objectif qu'il poursuit en revenant étant de nous mettre en sécurité dans le ciel de son Père. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une parole, oui, je sais, je la reprends souvent, mais nous aimons nous la répéter, nous la redire. Jésus revient. Dans ces derniers temps, avons-nous dit, nous sommes dans l'aujourd'hui de Dieu. Appelé temps de la grâce ou économie de la grâce. N'est-ce pas gratuitement que vous êtes sauvés ? Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour toi, comme pour moi, nous qui avons cru. Voyez de quel amour le Père nous a donné. Voyez quel amour, pardon, le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Non, mais vous réalisez votre privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes. Aujourd'hui, des entreprises françaises, on nous rabâche les oreilles avec cela, sont au bénéfice du quoi qu'il en coûte. Moi, je vous dis tout de suite, avec le Seigneur Jésus, tout est gratuit. La dette a été payée. Il ne reviendra pas vers nous pour nous dire « Attends, je t'ai donné mon salut, maintenant tu vas casquer. » Non. Tout est gratuit avec le Seigneur Jésus. La dette n'est plus. L'ardoise a été effacée par son sang, pleinement efficace pour ce faire. Notre position, lui faire confiance. Aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Et je crois au Seigneur Jésus que les choses ne sont plus comme avant. Dès l'instant où j'ai cru, les choses n'ont plus été comme avant. Vous connaissez tous ce passage qui nous dit « Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé, l'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé. Voici toute est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, nous est-il précisé, est l'œuvre de Dieu. Quelle est belle ! Quelle est belle ! Personne pour le dire Amen. Mais moi, je dis Amen et Amen. L'œuvre de Dieu dans nos vies est magnifique. Faut-il encore le laisser agir ? Tout est devenu nouveau. Mais bien-aimés, vous qui avez cru, si le doute affecte votre pensée un instant, si le doute trouble votre cœur, ayez toujours présent à l'esprit ce texte de 2 Corinthiens 5, 17, que tout est devenu nouveau. C'est l'aujourd'hui de Dieu de vouloir faire toute chose nouvelle dans chacune de nos vies. Le désir de mon cœur ce matin, c'est que quelqu'un entende cette parole et la reçoivent. Parce que pour quelqu'un parmi nous, il y a un aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais il y a un aujourd'hui. Puisse cette parole entendre ce que le Seigneur lui dit là. J'ai la ferme conviction que je ne pouvais pas apporter d'autres messages depuis plusieurs semaines, pas seulement dès l'instant où Michel m'a dit « Jean-Louis, j'aimerais bien que ce soit toi », mais depuis plusieurs semaines, j'ai ce message, mais je n'avais pas grand-chose, j'avais aujourd'hui. Voilà. Ah ben oui, Seigneur, aujourd'hui. Et c'était pour dans 3 semaines. Il faut parfois creuser, chercher quelle est la pensée que le Seigneur met dans notre cœur et ce qu'il veut nous dire. Dernièrement, il a dû me parler car j'étais souffrant, affaibli physiquement, avec pour l'effet d'affecter tout mon être. Alors toutes sortes de pensées m'ont traversé l'esprit. Mais il y a eu un moment donné, au plus mal, une pensée de l'esprit qui est venue à mon cœur, je l'ai gardée précieusement, je suis appuyé sur elle, que ça n'allait pas durer, mais que le Seigneur allait me relever. Il y a des pensées comme ça de l'esprit qu'il nous faut recevoir et garder dans son cœur, parce qu'elles ont leur utilité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Endurcir son cœur, c'est le garder fermé, c'est le verrouiller, c'est le rendre inaccessible, insensible à la voix de Dieu, à la pensée de Dieu. Écouter la voix de Dieu, cela nécessite de faire silence en nous-mêmes, de faire taire les bruits de la terre, de s'isoler. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Avez-vous déjà essayé ? Aujourd'hui, avant que le soleil ne se retire, faites l'essai. Alors revenons à notre première lecture, celle où Zachée, le percepteur des impôts, est interpellé par Jésus. Il ne s'y attend pas. Il a le désir de le voir, il est de petite taille aussi, il se trouve contraint de se hisser dans un sycomore. C'est peut-être l'attitude de quelques-uns qui veulent bien voir Jésus, mais il y a un petit effort à faire. Et puis, il y a aussi peut-être cette pensée qui peut être là. Je veux bien le voir, mais je ne veux pas que l'on me voie, que je regarde Jésus, que je cherche à voir Jésus. Alors, ils l'attendent discrètement sur leur passage. C'est ce que fait Zachée. Mais voilà que Jésus arrive à sa hauteur, s'arrête et lève les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui. Il y a de la joie. Alors, si l'on avait poursuivi notre lecture dans Zachée, nous aurions trouvé cette précision importante que Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il y a de la joie à recevoir le Seigneur dans son cœur. Ce qui s'est passé pour Jésus, de son cœur qui a été vivement touché, nous voyons que c'est du concret, puisqu'il est dit, il est bien précisé que Zachée a eu sa vie transformée sur le champ. Ne dit-il pas, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça a été dit tout à l'heure concernant la perdition que Jésus est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Dès l'instant où Jésus entre dans la vie de Zachée, il ne lui cache aucune de ses malversations. Il était malhonnête. Hein. Il lui fait part de ses richesses mal acquises et du tort qu'il a fait à autrui. Et que voyons-nous ? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est l'Évangile, comme je l'aime et comme j'ai plaisir à le prêcher. Jésus lui accorde sur le champ le salut. Et aujourd'hui, il y a peut-être nécessité pour quelqu'un de recevoir ce salut. Vous appelez ça comment ? Ben, j'appelle ça se convertir. Agnès et moi, nous avons vu de telles conversions et nous ne désespérons pas d'en voir à nouveau se produire. Mais pas seulement chez les autres, hein. Dans les autres dénominations, mais aussi dans ce lieu. Que ce soit notre prière de voir des conversions au milieu de nous, dans notre entourage. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Michel a donné un témoignage tout à l'heure. J'ai bien aimé. Merci, Michel. Eh bien, au deuxième soir de ma conversion, aussi, hein, deuxième soir, je rentre du travail. Agnès a préparé le repas avec soin. On est tout jeune mariés, alors s'y applique, mais aujourd'hui encore. Hein. Et au moment de mettre le couvert, je lui dis, s'il te plaît, mettons un troisième couvert, nous avons ce soir un invité de marque. Vous devinez qui ? J'avais invité dans l'après-midi le Seigneur Jésus à être avec nous ce soir. Et on peut en témoigner, cette soirée a été magnifique. Magnifique, elle a marqué nos esprits à tout jamais. Je vous en parle aujourd'hui, 52 ou 53 ans après. Et j'ai dans mon cœur cette joie que j'ai connue à ce moment-là, que nous avons connue à ce moment-là. C'est l'aujourd'hui de Dieu qui se concrétise là, dans la vie du croyant. Ça vaut la peine de croire. Le salut de Dieu n'étant pas quelque chose dit, mais il nous est précisé que dès l'instant où on le reçoit dans son cœur, nous connaissons là les arts ou prémices de l'esprit dans l'attente de la manifestation complète du salut. C'est-à-dire que nous sommes marqués du sceau de Dieu qui met dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est un avant-goût de l'éternité, du ciel. Dans la deuxième lecture, nous avons le récit de deux hommes peu recommandables à première vue qui purgent leur peine, une dette qu'ils ont envers la société. Ils sont très différents l'un de l'autre. L'un a le cœur fermé, insensible à la présence du Seigneur, de surcroît il est moqueur et il est injurieux. L'autre a le cœur ouvert, bien disposé, attentif, et il réfléchit, notre homme. Le premier dit, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, mais sauve-nous. L'autre le reprend et de lui dire, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cela souligne, mes amis, cela souligne la bonté et la clémence du Seigneur, toujours prêt à pardonner le coupable. Il le fait ici, nous est-il dit, sur le champ. C'est beau. Ben, dès que j'ai cru, j'ai senti que j'étais pardonné. Amen. c'est l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est prêt à te faire grâce. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et moi, et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Faut-il encore que l'on prête l'oreille pour entendre celui qui frappe à la porte? Ah oui. Coiffé d'un casque audio haute définition, et puis ça pulse là-dedans. Le Seigneur aura peut-être du mal à faire entendre sa voix. Peut-être falloir baisser le son ou ôter cet instrument. Suis-je alors en mesure d'entendre celui qui frappe à la porte, d'écouter la voix et discerner, mais qui peut être là à cette heure-ci? D'ailleurs, ce n'est pas l'heure qui me convient. Donc qu'est-ce qu'il fait à cette heure-là à frapper à ma porte? C'est souvent la manière dont on réagit lorsque le Seigneur nous appelle. Alors on n'est pas aussi violent, mais Seigneur, plus tard, ce serait bien. Tu me dis ceci, de faire cela, de prendre une décision. Attends un peu, Seigneur, un autre moment. Je veux bien, je suis d'accord, mais je veux bien, un autre moment. Mes amis, pour ces deux brigands, il n'y a pas de lendemain. L'on remet au lendemain, cela s'appelle procrastiner, qui peut affirmer avec certitude qu'il sera là demain? Personne, ni vous, ni moi. Et c'est pourtant ainsi que l'on agit vis-à-vis de Dieu. L'on remet à plus tard, se privant d'une bénédiction, très souvent, d'entendre une parole bienfaisante, de recevoir le conseil averti de celui qui sait toute chose et qui a le désir dans son cœur de nous faire éviter un piège, de faire un faux pas, de glisser malheureusement jusqu'à la chute. Dieu a la capacité de nous parler 24 heures sur 24 par sa parole, par les prophéties, les témoignages, une circonstance, un événement soudain, inattendu. En ce moment, voyez-vous, avec Agnès, on prend beaucoup de plaisir à observer un rouge-gorge qui nous visite régulièrement par des allées incessantes. Il vient jusqu'à la porte de la cuisine. Et on le voit prenant de la nourriture dans son bec pour aller nourrir ses petits. C'est magnifique à voir. Et c'est tous les jours, et c'est quasiment à toutes les heures qu'il vient. Et c'est toujours le même cinéma. Et il est là, si on ne lui donne pas, il est là à nous regarder, d'un air de dire « ça vient ». Ah oui. Eh bien, au travers de ces choses, de cette observation, Dieu parle à notre cœur, enfin à mon cœur toujours. Sommes-nous aussi réguliers, persévérants, pour nourrir, nous nourrir et nourrir nos proches dont nous avons la charge? C'est cela la leçon que nous donne cet oiseau. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Méditer la parole de Dieu est un art qui semble de plus en plus délaissé de nos jours, où le temps semble toujours nous manquer. La méditation poursuit et approfondit le bénéfice de la lecture. Et c'est ainsi qu'à un rythme lent et ponctué de pauses, cette méditation nous permet d'écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui doit être la nourriture essentielle du croyant et de sa maison. Je crois que nous en sommes, je ne vais pas dire tous, mais plusieurs en sont très loin. Et peut-être moi le premier, de nourrir suffisamment mon cœur de sa parole. Dans Apocalypse 3:20 que j'ai cité tout à l'heure, vous le savez, on parle de cette intimité, puisqu'il est dit « j'entrerai, je souperai avec lui, j'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas ». Mais veillons à ce que notre cœur soit ouvert, attentif, réceptif et non verrouillé, insensible, indifférent à la voix de Dieu. C'est le message de ce matin pour vous, parce qu'il y a l'aujourd'hui de Dieu. Je pense à cet ami qui a vu son fils Alain se convertir, puis sa belle-fille, puis la belle-sœur de celle-ci, puis son mari. Alors le cœur de cette personne qui a entendu l'Évangile pendant des années et qui venait au milieu de nous très, très, très facilement, c'est fermé, c'est fermé. Et pas seulement son cœur, celui de sa jeune fille, il s'est fermé. Et puis un beau jour, on ne les a plus revus. Que sont-elles devenues? Nous ignorons. Mais il y a des gens qui se ferment à l'Évangile. Et ça semble irrémédiable. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances afin que tu vives. Tel est l'enjeu, vivre ou mourir. Faites le bon choix et ne pas attendre. Ne pas remettre à demain ce qui aujourd'hui peut être réglé une fois pour toutes. Dieu ne parlant jamais pour ne rien dire ou pour meubler une conversation ou remplir un vide. Lorsqu'il appelle quelqu'un, c'est solennel. Lorsque Dieu fait entendre son appel, c'est solennel. Et ce matin, par la bouche, par un don spirituel, nous avons entendu un appel. Que vas-tu faire si tu as reçu dans ton cœur cet appel? Je ne donne pas de conclusion à ce message. Je n'y mets pas un point final. Convaincu que pour une personne parmi nous, et j'ai été conforté en cela, que cette réflexion pour cette personne ou pour plusieurs doit se poursuivre et être suivie d'une décision aujourd'hui et d'une démarche aujourd'hui, j'insiste, d'une décision aujourd'hui et d'une démarche aujourd'hui. Mes amis, l'Esprit est à l'œuvre. Laissons-nous happer par le Saint-Esprit, conduire par le Saint-Esprit, diriger par le Saint-Esprit. Je termine. Nous avons reçu une invitation pour jeudi prochain de nos amis catholiques d'Aradon, nous annonçant la réunion qu'il y a régulièrement parmi eux, de Net for God. Ceci dit, en passant, parmi les frères, sœurs catholiques, il y a aujourd'hui un impressionnant réveil. Un impressionnant réveil. Je peux vous assurer que cela bouge. Que cela bouge. Un impressionnant réveil et qui a des conséquences, hein, parce qu'on voit des vies transformées, changées, et ils en témoignent. Et le thème de cette invitation à laquelle j'espère pouvoir répondre, nous allons répondre, c'est sur le Saint-Esprit, bénédiction, entendez bien, bénédiction pour nos vies aujourd'hui. Ah, j'ai dit Seigneur. Ça, c'est ce mot, c'est ce terme, c'est ce qu'il faut développer. Je suis conforté, je l'avais demandé dans ma prière. Et le Seigneur est venu me mettre sous les yeux cette invitation. Alors vous m'avez bien entendu, je ne vais pas continuer, j'arrête là. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen.